Il est 6h.
Je suis dans la joie et la bonne humeur. J'ai tellement hâte d'y être, de défiler. Ça va être un moment privilégié.
La fierté de la quintuple championne du monde de judo, Clarisse Agbegnénou. Elle sera la porte-drapeau de l'équipe de France lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo cet après-midi. Et elle fait partie des favorites pour décrocher une médaille. Dans ce journal d'information de la nuit, les députés qui adoptent le pass sanitaire à l'Assemblée. Valérie Pécresse qui se lance dans la course à la présidentielle pour 2022. Et puis si vous prenez la route des vacances aujourd'hui, prudence, une étude révèle que les Français sont plus fatigués cette année. Juste après ce journal, le regard international de Jean-Sébastien Soldaini et l'UNESCO qui se réveille sur la sauvegarde du patrimoine mondial. Et puis notre rendez-vous d'histoire comme chaque matin avec David Castello-Lopez. Très bon réveil, merci d'avoir choisi Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Votre premier journal du matin, c'est avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
C'est donc le jour J, les Jeux Olympiques s'ouvrent officiellement aujourd'hui à Tokyo.
Une cérémonie d'ouverture à 13h, mais la compétition a déjà commencé avec une lourde défaite d'entrée hier pour l'équipe de France de foot qui s'est inclinée 4-1 face au Mexique. Au total, 403 athlètes tricolores sont au Japon et la France compte sur ses têtes d'affiche pour gagner des médailles, Corinne Boulou.
Alors oui, il y a évidemment Teddy Riner, le double champion olympique visera un triplé en or au pays du judo, malgré une blessure au genou qui l'a privé d'entraînement pendant 2 mois. La judoka Clarisse Agbegnénou, porte-drapeau à Tokyo, visera elle un premier titre après sa médaille d'argent il y a 5 ans. L'or, c'est aussi ce que viennent chercher la championne olympique de Rio en planche à voile, Charline Picon, le karatéka Steven Dacosta ou les spécialistes de VTT, Loana Lecomte, 21 ans pour ses premiers Jeux, et Pauline Ferrand-Prévot. Le champion du monde de triathlon, Vincent Luis ambitionne lui aussi pour ses 3e jeux la plus haute marche du podium.
C'est clair que moi je me présenterai sur la ligne en ayant comme ambition de gagner la course. Là moi j'arrive un peu au sommet de ma carrière. Je sais que je suis en forme. J'ai passé un super hiver. Mais ouais, c'est clair que je suis favori, je fais partie des favoris. Mais la pression est différente par rapport aux 2 dernières Olympiades, puisque maintenant j'arrive avec un palmarès qui est plus étoffé, donc j'ai moins peur de l'échec.
Échec, un mot banni du vocabulaire des vice-champions olympiques de Rio, que sont Mélina Robert-Michon, la lanceuse de disques, Renaud Lavilloni, le perchiste, Kevin Mayer, le décathlonien, ou encore le nageur Florent Manaudou, qui viseront à nouveau un podium olympique. Et puis la délégation tricolore comptera aussi sur ses sports co, le hand, le basket et le volley à Tokyo.
Après des débats houleux, l'Assemblée nationale a donné cette nuit son feu vert à l'extension du pass sanitaire à 117 voix pour, 86 contre. Les députés ont rejeté en revanche son utilisation dans les EHPAD et les hôpitaux de France pour les patients non urgents ou les visiteurs. Échange âpre aussi sur le contrôle du pass sanitaire sur les terrasses des restaurants et des cafés. Des députés ont soulevé le problème. Écoutez la réponse de Cédric O, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques.
Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas vérifier des passes sanitaires sur une terrasse. Effectivement, c'est pénible, mais il suffit de le faire quand vous prenez la commande. Il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Bien sûr qu'on peut le faire.
Cédric O à l'Assemblée nationale, notez qu'une nouvelle manifestation contre le pass sanitaire est prévue samedi à Paris, place du Trocadéro.
Et pendant ce temps, l'épidémie progresse toujours. Près de 22 000 nouveaux cas recensés en 24 heures, le plus haut niveau atteint depuis début mai.
En Charente-Maritime, le taux d'incidence dépasse largement la moyenne nationale. Il n'a jamais été aussi élevé depuis le début de l'épidémie, avec 247 cas pour 100 000 habitants. Pour contrer la progression du variant Delta, le masque redevient obligatoire en extérieur dans 45 communes touristiques du département, mais tout le monde ne s'y est pas encore mis. Reportage de Laura Taouchanoff à Châtelaillon-Plage, près de La Rochelle.
À la sortie de la plage, certains vacanciers sont visiblement passés à côté de l'information depuis 2 jours. Catherine aide ses 2 petits-enfants à se rhabiller sans son masque.
Vous saviez qu'il fallait remettre le masque ?
Je ne pensais pas que c'était déjà revenu ici. J'avoue.
Regardez, là, tout le monde, on l'a pas, hein, les gens. C'est trop tôt, on n'est pas au courant. Je crois que j'étais pas la seule. Mais j'en ai dans le sac, donc ça va être vite réparé. Pas le choix. Entre la chaleur et le masque. Mon Dieu, quelle année.
Alors pour échapper à cette nouvelle restriction en plein pic de chaleur, tant pis pour la glace sur le port, Céline préfère changer son programme et opter pour la forêt ou la plage.
On essaie de jouer stratégie. Aller là où potentiellement il y a un petit peu moins de monde, ou du moins on est en zone plus aérée à l'extérieur, où effectivement on a potentiellement peut-être un peu moins de risque d'être tous recroquevillés au même endroit.
Mais pour éviter d'autres restrictions comme dans le sud, Christian compte sur le civisme des touristes.
Moi, l'image que j'ai, la dernière que j'ai, c'est l'Inde, où à un moment donné, on voit tous ces gens qui meurent. Moi, ça m'est resté. Qu'est-ce qu'on a sous la main ? On a le masque, les gestes barrières. Il faut le faire, quoi. Allez, allez,
Pour les plus distraits, de nombreux panneaux, obligation de porter le masque, refont leur apparition sur la promenade du front de mer.
Laura Taouchanoff.
Et dans la course à la présidentielle, une nouvelle candidate, en tout cas à la primaire de la droite, Valérie Pécresse, s'est lancée hier soir.
Fraîchement réélue à la tête de la région Île-de-France, l'ancienne ministre veut restaurer la fierté française, comme elle l'annonce dans une interview au Figaro. « Je ne supporte plus qu'on parle au lieu d'agir », assure-t-elle. Valérie Pécresse qui se pose donc en concurrente de Xavier Bertrand. Pour autant, comme elle l'a déclaré aux 20h de TF1 hier soir, elle accepte de se plier au jeu d'une primaire à droite.
Il ne peut pas y avoir de candidat de la droite et du centre. Il doit y avoir un candidat unique de l'alternance. On a commencé à construire ce chemin de rassemblement. Ça passe vraisemblablement par une primaire ouverte. Vous savez, elle est lancée. Ce que je crois, c'est qu'il y a une très belle équipe de France de la droite et du centre qui est sortie de ces élections. Mais maintenant, il faut choisir le capitaine. Et c'est aux Français de choisir. Alors je dis... que le meilleur ou la meilleure gagne.
Choisir le capitaine Louis Dragnel, vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. Cette candidature de Valérie Pécresse pour la présidentielle de 2022, finalement, qu'est-ce que ça change pour la droite ?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Philippe Juvin et Valérie Pécresse, tous candidats potentiels de la droite pour la présidentielle, se sont réunis il y a 3 jours pour essayer de s'entendre sur l'organisation d'une primaire sans pour autant l'acter véritablement. Et donc, en déclarant sa candidature la première, Valérie Pécresse vient de provoquer, de forcer l'organisation de cette primaire. Ensuite, la présidente de la région capitale vient de mettre une très grosse pression sur les épaules de Xavier Bertrand, car le président des Hauts-de-France, qui est déjà candidat à la présidentielle, ne veut pas participer à la primaire, il l'a toujours dit, et il aimerait beaucoup être le seul candidat de la droite pour la présidentielle. Donc en se lançant, Valérie Pécresse est en train de forcer Xavier Bertrand à la négociation pour trouver une solution, car les électeurs de droite le savent, s'il n'y a pas un candidat et un seul, la présidentielle est presque perdue d'avance.
Louis Dragnel pour Europe 1.
Après les révélations de l'affaire Pegasus, Emmanuel Macron, lui, cible potentielle du logiciel espion, le président a décidé de changer de téléphone et de numéro.
Jusqu'ici muet, Israël, pays d'où est originaire, la NSO qui fabrique le logiciel Pegasus a fini par réagir. Une commission d'enquête a été créée, mais les autorités veulent surtout tenter d'étouffer l'affaire, car Israël aurait profité des ventes de Pegasus pour nouer ou renforcer des relations diplomatiques avec d'autres pays. Les explications de notre correspondante en Israël, Clotilde Mravko.
Pegasus est pratique car il est indétectable. Pour Israël, c'est idéal, contrairement à des ventes d'armes qui finissent toujours par être repérées. Ce logiciel espion ne laisse pas de traces. Les gouvernements qui l'ont acheté auprès de la NSO peuvent toujours nier se l'être procuré. Officiellement, l'entreprise est privée, mais le ministère de la Défense israélien doit donner son feu vert à chaque vente de cette technologie à l'étranger, comme il le fait pour toutes les exportations d'armes. Et c'est là que la relation se trouble. Le journal israélien Haaretz démontre ainsi que des opposants ont commencé à être mis sous surveillance dans certains pays, comme la Hongrie ou l'Inde, juste après une rencontre officielle avec l'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le logiciel a été vendu à des pays dont Israël voulait se rapprocher, comme l'Arabie Saoudite, ou encore à des États comme le Rwanda, avec lesquels les relations diplomatiques étaient quasi inexistantes. Face au scandale, le Parlement israélien a annoncé hier la création d'une commission d'enquête, mais l'État hébreu le répète, il n'a pas eu accès aux informations récoltées par les clients de la NSO. Jérusalem, Clotilde Mravko, Europe 1.
6h09 sur Europe 1, 125 millions d'euros, c'est le montant colossal de l'amende infligée hier par l'autorité de la concurrence à Luxottica, premier fournisseur mondial de lunettes.
Le motif, l'entreprise italienne a imposé des prix de vente aux opticiens qui commercialisent ces modèles, et ça, Clément Le Saffre, c'est illégal.
Oui, Luxottica a profité de sa position de force sur le marché des lunettes pour limiter la liberté tarifaire des distributeurs, principalement des chaînes comme Chris, Alain Afflelou ou Optical Center. Dans les contrats passés avec les magasins, le fournisseur italien fixait d'abord des prix conseillés pour ces modèles, jusque-là rien d'illégal, sauf que ces prix étaient généralement élevés et que Luxottica interdisait aux opticiens d'appliquer des remises, de faire des promotions et de vendre en ligne ces montures. Pour Fabienne Sirodet-Garnier, vice-présidente de l'autorité de la concurrence, cette pratique créait un double préjudice.
Si vous étiez un opticien qui voulait faire jouer la concurrence et vendre ses produits à un prix attractif, vous ne pouviez pas le faire. Et puis, bien sûr, ce préjudice, il était aussi celui du consommateur qui ne trouvait pas de lunettes moins chères, même s'il changeait de magasin, d'opticien, ou s'il allait sur Internet.
Et en plus de ces prix imposés, Luxottica infligeait des mesures de rétorsion aux magasins en cas d'écart, comme des retards de livraison ou des blocages de comptes, ce qui a fait gonfler l'amende infligée au groupe italien. Amende qui concerne des faits relevés entre 2005 et 2014, l'autorité de la concurrence n'est pas en mesure de dire si oui ou non les pratiques de Luxottica ont encore cours aujourd'hui.
Clément Le Saffre.
C'est le début d'un week-end chargé sur les routes. Vous serez nombreux à partir aujourd'hui en vacances. Journée classée orange dans le sens des départs.
Un contexte sanitaire oblige. 90% des Français ont choisi de passer leur été en France. Les deux tiers prendront la voiture pour se déplacer. Prudence donc, d'autant qu'avec la fatigue et le stress accumulés cette année, les risques de somnolence au volant sont importants, Aude Leroy.
Oui, 43% des Français se disent plus fatigués que l'an dernier, selon l'étude de l'assureur MMA. Un effet direct de la crise sanitaire. Les scientifiques du sommeil l'ont constaté et c'est inédit, explique le docteur Pierre Philippe, médecin du sommeil au CHU de Bordeaux et auteur du livre Antifatigue aux éditions Albin Michel.
Cette période de crise sanitaire, il n'y a jamais eu autant de plaintes de sommeil en France. On sait qu'il faut au moins dormir 7 heures par nuit, 7 jours par semaine, et il y a 30% des Français qui dorment encore 6 heures par nuit. Donc dans ce contexte-là, ce que nous, on a identifié, les chercheurs du sommeil, c'est qu'il y avait un vrai enjeu de dette chronique de sommeil. On a trop d'accidents, on a trop de morts encore. La somnolence est la première cause de mort sur autoroute, c'est pas normal au XXIe siècle. Donc on est vraiment dans une situation où il faut dire aux gens « protégez-vous ».
71% des conducteurs ont déjà somnolé au volant. Alors, ne prenez pas de risque, décalez votre voyage, reposez-vous ou passez le volant. La plage au bout de la route ne va pas s'envoler.
Aude Leroy.
Et puis on termine ce journal en musique. Emilie Dez, je le disais tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'Amy Winehouse est décédée à l'âge seulement de 27 ans.
Amy Winehouse qui laisse derrière elle seulement 2 albums studio, des opus qui ont marqué l'histoire de la musique. Selon le spécialiste de rock Philippe Manœuvre, personne n'a égalé son talent depuis.
Amy Winehouse, c'était une grande chanteuse soul. En fait, c'était la nouvelle Aretha Franklin. Elle avait cette voix qu'on adore, c'est-à-dire un peu pincée, des chanteuses pop des années 50-60. Et c'était ça la merveille. C'était que sans nostalgie, on avait une jeune fille de 20 ans qui chantait exactement comme les Ronettes ou comme les Suprêmes.
Philippe Manœuvre au micro Europe 1 d'Angèle Châtelier.
Cette ambiance merveilleuse de l'époque des groupes de filles du début des années 60. Et c'est tout ça qui a disparu avec elle. Et c'est horrible à dire, mais ça a été. Elle a rejoint le club des 27 hein, avec Kurt Cobain, avec Brian Jones, c'est Jimi Hendrix et Janis Joplin. C'est vraiment abominable parce que c'est les grands génies de la musique. Amy Winehouse, c'est la tragédie qui était au rendez-vous, mais c'était un tel talent que ça ne pouvait pas être autrement.
Philippe Manœuvre. Envie d'entendre trop de musique, Emilie Dez. C'était effectivement Philippe Manœuvre. Merci beaucoup. C'était le journal d'Emilie Dez. Il est 6h13 sur Europe 1.